Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Game of Thrones.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously pour plonger dans une série phare que... Ah, bah non, en fait, là, je vous l'ai déjà raconté, la série phare. Mais je vais vous en retracer un autre aspect et je vais vous emporter avec moi. Il y a suffisamment de fois où des amis me disent « Ah, ben, tu peux pas m'emmener dans ta valise, hein ?» Ben là, ça y est, c'est enfin le cas. Allez, suivez-moi. On est dans un van et vous somnolez. Bon, j'ai pas dit que vous ronflez, hein ? D'accord, mais vous somnolez quand même. Il est vrai qu'on roule depuis un bon moment, et qu'il est relativement tôt. Mais bon, Anna, l'attachée de presse, nous avait prévenu par mail. Jeudi, on part à 9h45 de l'hôtel, on se retrouve donc dans le hall, et on aura 45 minutes de route. Bon, sachant que vous êtes arrivé sur place la veille, par le vol British Airways 0319, il faut comprendre que vous êtes quand même un peu vanné. On est parti de Paris à 16h50, on est arrivé en Grande-Bretagne à 17h, magie du décalage horaire. Sauf que ensuite, on arrive sur place à 20h30 avec notre vol de correspondance. Le temps qu'on récupère nos valises, que l'on trouve un taxi, bon, l'hôtel est à 15 minutes, enfin quand même. Nous avons salué Anna, l'attachée de presse en question, qui sera votre guide, et le mien, pendant les jours à venir. Hier soir, dîner à l'hôtel, à faire connaissance avec nos collègues venus de plusieurs pays, dont Kate Anne. Wow, Kate Anne! Ouais, bon, alors, moi je suis ces articles et ces reportages sur les tournages de séries dans TV Guide depuis des années. Je suis peut-être un des rares Français à recevoir TV Guide. Il y a quelques autres, mais enfin, on est quand même assez rares. Donc, c'est quand même le mythique magazine télé américain. Hein. Donc, le recevoir en France, c'est quand même très, très exceptionnel. Donc, c'est super de la croiser. Hein. Bon, vous, évidemment, ça vous laisse un peu froid. Mais d'ailleurs, dans les années qui vont suivre, vous allez encore et toujours faire comme moi. Vous allez suivre ces reportages à Kétan au fil des saisons de la série dont on va parler. Jusqu'au tout dernier, qui est paru il y a quelques jours à peine. Donc tout ça pour dire que si on ajoute les programmes télé dans votre chambre, à passer de BBC Two à ITV, puis à Sky en zappant sur votre téléviseur, bref, il est 10h du matin, vous somnolez dans le minivan qui nous conduit tous sur les lieux du tournage. Nous sommes le jeudi 28 octobre 2010. On est en Irlande du Nord. Notre van roule au nord de Belfast, au centre duquel se trouve notre hôtel, pour arriver enfin près de Magheramorne, dans le comté d'Antrim. Là se dresse une cimenterie désaffectée. Et vous comprenez soudain que c'est le lieu de tournage idéal. Pensez un petit peu comme dans le film Robocop, là. Vous voyez, très très haute, avec des tuyaux, des échafaudages un peu partout. Le tout rendu humide par la pluie. Et puis non. En fait, ça n'a absolument rien à voir. On passe devant la cimenterie, on s'arrête même pas. On continue maintenant sur un petit chemin, bon, qui sent pas trop la noisette, parce qu'il est pas très asphalté quand même. Il grimpe légèrement, ça secoue pas mal. On se rend en fait en flanc de montagne, dans un décor permanent, construit pour l'occasion. Ouais, vous avez bien entendu, un décor en vrai, en dur, qui restera en place, protégé et surveillé saison après saison. Enfin, s'il y en a. Vous n'avez bien sûr pas le droit de préciser où il se trouve, parce qu'on craint que dans un ou deux ans, des fans viennent et tentent de le saccager pour y récupérer des souvenirs à vendre sur eBay. Allez, on sort du van, ça y est, on est arrivé. Hein. Les camions avec les loges, le matériel sont là aussi. Et nous allons passer deux portes massives en bois. Et nous voilà dans le Château Noir, dans Castle Black. Nous sommes sur le tournage de Game of Thrones. Nous sommes au tout début de la saga, en plein tournage de la première saison, des mois avant que la diffusion ne démarre aux États-Unis sur HBO et en France sur OCS, en avril 2011. Donc là, en ce jeudi 28 octobre 2010... Vous et moi ignorez encore totalement que nous serons les seuls et uniques journalistes français à être allés sur le tournage de la série. Car celui-ci deviendra très vite fermé, top secret, sauf pour une petite poignée de très très gros médias comme Entertainment Weekly et TV Guide. Kate, je te hais. Et ils y reviendront souvent d'ailleurs. Mais plusieurs mois donc, avant de savoir que ce pari fou et dispendieux, digne de Rome, cette première tentative de la chaîne payante américaine HBO dans le domaine de l'heroic fantasy, et même de la dark fantasy, va devenir un peu plus qu'un succès geek, un peu plus qu'une grosse production emblématique comme peuvent l'être sur HBO, les Sopranos, les Banner Brothers, mais un phénomène mondial avec une ferveur absolument incroyable. Un phénomène qui, de nos jours, va très bientôt trouver sa conclusion. Mais vous et moi, à l'époque, en ce jour d'octobre 2010, vous ne pensez pas du tout à ça. Vous avez autre chose en tête. Retrouvez votre mâchoire qui est tombée par terre tellement vous êtes stupéfait par ce que vous voyez en entrant dans le château noir. Tout le château a été construit, en vrai, là, à flanc de montagne. Alors, comme toute photo est interdite, et qu'on vous a bien précisé que vous ne pouviez absolument rien montrer de tout cela, il nous reste deux options. Tout d'abord, faire confiance dans notre mémoire. Bon, ça, on va dire non, hein. C'est pas la peine. Et puis, sortir notre appareil enregistreur, que l'on destine à ceux que l'on va pouvoir interviewer, et l'utiliser tel un dictaphone, en enregistrant nos propres réactions. Ben, en enregistrant ce qu'on voit, quoi, grosso modo. Allez, on fait ça.
Alors, bon, bah, je commence à faire une première description un petit peu de l'endroit où on se trouve après avoir roulé pendant 45 minutes depuis l'hôtel. On se retrouve vraiment loin dans une ancienne usine de ciment. Et au-delà de l'usine de ciment qui est déjà totalement détruite, qui est déjà un décor en tant que tel, se dresse tout au long d'une allée, tout au haut d'une route, se dresse carrément le château, donc sur deux étages avec des cahuts très médiévales en fait. Le mur est juste devant. Donc il y a une espèce de construction qui est érigée contre le mur justement a priori pour le protéger ou pour éviter les invasions. Des hommes noirs sont un peu partout, évidemment on est connu en costume. Deux grosses caméras, bien sûr, sont prêtes. Non, attendez, trois. Trois grosses caméras sont là, les gens sont en train de se préparer. Voilà.
On vient de nous donner la call sheet, c'est-à-dire la feuille de route de la journée, le planning de tournage, qui est ultra précis. Tout y figure. Des numéros de téléphone, des assistants présents, à la liste des acteurs nécessaires, même à leur doublure, en passant par les accessoires qui sont utiles pour chaque scène. Le déroulé du tournage, le nombre de séquences qui devront être mises en boîte aujourd'hui. Il y en a quatre en tout et pour tout. Mais ça ne signifie pas quatre plans, hein. Ça signifie quatre scènes, du début à la fin. Plan large, plan moyen, mouvement de caméra, champ, contre-champ, etc., etc. Et puis, sur la call sheet de la Yellow Unit, c'est-à-dire bah, nous, là, aujourd'hui, il y a aussi la météo. Ça peut vous paraître trivial, mais c'est extrêmement important pour le directeur de la photo, par exemple. Surtout quand on tourne en extérieur, ce qui est le cas ici. Là, c'est indiqué « A bright start with some early sunshine, but soon clouding over with outbreaks of wind developing. » En clair, jolie lumière au petit matin, mais ça va se gâter. Et à notre arrivée, ça, je vous confirme, ça s'est franchement gâté. Ah oui, j'avais justement oublié de vous dire, il fait froid, il fait humide. Total. Bon. Mais ça aussi, Anna vous avait prévenu. Donc, nous ne sommes pas venus en t-shirt. C'est manteau, cache-nez et bonnet qui sont de mise. Allez, le tournage va reprendre. La scène est prévue pour le 7e épisode de la première saison de Game of Thrones. Au centre, sous la pluie et dans la boue donc, il y a les chevaliers de la confrérie des gardes de nuit qui sont tous assis sur des bancs et ils écoutent le commandant Mormont leur prodiguer ses conseils, car l'heure du départ approche. Pour être précis, il s'agit des scènes 2D de l'épisode. Parmi les gardes de nuit, il y a Jon Snow, fils bâtard de Lord Edward Stark. La scène se termine, les trois caméras sont coupées, ben oui, je vous ai bien dit, il y a trois caméras, et là, on assiste à un moment qui brise totalement l'illusion de mercenaire rompu au mauvais traitement et aux caprices de la nature. Ouais, c'est trop drôle, donc là, je prends le dictaphone et je vous raconte.
Alors dès que la scène est terminée, tout le monde arrive avec des parapluies verts fluo, pour protéger tous les comédiens, les acteurs et tout le monde. Donc ce set est avec des parapluies fluo.
Ah ouais, ça casse un peu la sanité de la scène. Ouais, c'est vrai. Mais il faut reconnaître qu'au bout d'un moment, tu finis trempé et que tu risques quand même d'attraper une pneumonie. Moi, j'en profite pour discrètement faire une photo que je vais poster sur Facebook. Mais bon, j'ai rien photographié, hein, hormis le sol détrempé et mes pieds. Alors que les membres de la garde de nuit laissent traîner leur long manteau dans la boue, bon, c'est pas gênant, me dit-on, hein, c'est dans l'esprit de la scène. Et que la pluie ne s'arrête pas, David Benioff nous rend visite. C'est lui le co-créateur et co-producteur de cette adaptation avec son camarade Debbie Weiss. C'est entre deux scènes et en plein tournage qu'il va nous parler de la série et de ses options scénaristiques. Nous, on aurait bien aimé la voir plus longtemps, tranquillement, dans un bureau, pendant une heure et tout, mais il est bien trop occupé. Il faudra nous saisir de ces quelques minutes sur le tournage. Et donc, tout d'abord, ben, on va se présenter.
Bienvenue au Château Noir. On vous a fait faire le tour ?
C'est un vrai pari pour HBO. Ils ont déjà proposé Rome, hein, mais c'était quand même un genre complètement différent. Il n'y a pas eu de mal à les convaincre.
Ce n'était pas évident. Ils n'avaient jamais fait de fantasy, même s'ils avaient déjà diffusé des séries avec des éléments surnaturels comme True Blood ou La Caravane de l'Étrange. Mais pour tout dire, personne n'a jamais fait de série de dark fantasy comme on essaie de le faire. Au départ, je crois qu'ils n'étaient pas très partants. mais en lisant le livre, ils ont vu que c'était une histoire comme ils aiment en raconter. Au fond, tout est axé sur les personnages, sur les intrigues et les machinations machiavéliques. Et ça, ils le font mieux que quiconque. Dès qu'on leur a proposé le projet, on a mis en avant qu'aucune autre chaîne ne savait comme eux dynamiter les genres. Ils ont pris un genre, usé et poussiéreux, le film de gangster, et ont su créer Les Sopranos. Avec Deadwood, ils ont revu le western. Avec Surécoute, c'était le genre policier. On s'inscrit dans cette démarche. On veut faire la même chose avec la fantasy.
Si on prend l'exemple de John, qui est quand même un des personnages principaux de la série, il ne sait pas à quoi s'attendre. Comment fait-on évoluer un tel personnage ?
C'est intéressant. On a un certain nombre de personnages et donc d'acteurs à engager pour les incarner. Les romans sont déjà parus. Il y en a déjà 4 de disponibles. Les acteurs peuvent les lire pour en savoir plus ou aller en ligne, consulter des sites comme Wikipédia ou Westeros.org. Ils peuvent aller lire les articles concernant leur personnage, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. C'est aussi simple que ça. Dans l'idéal, on aimerait parfois qu'ils ne sachent pas tout, tout de suite. Par exemple, pour le personnage de Jon Snow, le mystère de ses origines est important. Mais dans tous les cas, il s'agit d'avancer pas à pas, pour construire des personnages complexes et intéressants. L'idée n'était pas, dès la première rencontre avec Kit Harington, de lui dire « Bon, voilà ce qui arrive à ton personnage à la fin du dernier tome ». On a commencé par leur présenter Westeros, puis les premiers épisodes. Que ce soit pour Jon ou n'importe quel autre personnage, on n'a jamais voulu trop en dire. On ne peut pas empêcher les acteurs de découvrir des choses tout seuls. Mais même quand ça arrive, ils ont tendance à garder pour eux ce qu'ils ont appris sur leur destin.
Vous avez certains de vos personnages principaux qui meurent. Ce n'est pas très commun dans une série télé.
Ça fait partie des choses qui nous ont séduits. George est connu pour ça. Il n'hésite pas à tuer des personnages géniaux, ceux que les lecteurs préfèrent parfois. Ça empêche de trop se sentir en sécurité. On a tous grandi avec des histoires où en général les gentils gagnent à la fin, et même si un ou deux gentils meurent en route, on avait déjà repéré lequel ce serait. Ceux qui sont un peu excentriques ou ceux qui sont un peu moins mis en avant. Ici, on ne sait jamais qui peut passer l'arme à gauche. Ça entretient la vigilance du téléspectateur, et c'est quelque chose qu'on connaît bien sur HBO. Dans Les Sopranos, personne n'était vraiment intouchable non plus. Certains amis qui ont travaillé sur la série m'ont raconté que tous les acteurs étaient nerveux quand ils recevaient les scénarios, parce qu'ils se demandaient toujours si c'était l'épisode où ils se feraient finalement descendre.
Sous une tente, autour d'un brasier, James Cosmo et Peter Vaughan se réchauffent. Le premier, James Cosmo, a une filmographie qui tiendrait à peine dans un bottin. De Highlander au Monde de Narnia, amicalement vôtre, en passant par Braveheart. Parfaitement à l'aise dans le rôle du commandant Mormon, il va se confier à nous.
C'est la rencontre de très nombreux éléments. Un peu comme avec Tolkien. Mais c'est plus fort. Et il y a plus de violence, plus d'action, et les personnages sont très bien définis. Ce sont à la fois des intrigues politiques, de l'aventure, ça coche beaucoup de cases.
Et Peter Vaughan se joint maintenant à nous. C'est un acteur du village des Damnés, de Brésil et des Chiens de paille de Sam Peckinpah. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans cette série ? Le fait que c'était HBO, le fait que c'était un projet très ambitieux, que c'était de l'heroic fantasy, que c'était basé sur des livres qui étaient déjà connus ?
Based on Game of Thrones, what was your main interest in to accepting to do that?
C'est une question très intéressante. Je suis un acteur professionnel. Je suis donc ravi si j'ai un personnage que j'aime et qui m'intéresse. Je saute sur l'occasion.
C'est donc sur la base du personnage.
C'est toujours basé sur les personnages. Mais pour aller dans votre sens, c'est aussi un formidable projet, ce HBO. J'ai travaillé pour eux auparavant, mais sur des choses très différentes, pour montrer que je suis un acteur qui fait plein de choses. Dans La vue et la mort de Peter Sellers, j'ai joué le rôle du père de Peter Sellers. Et il y a de nombreuses années, à Prague, j'ai joué dans une histoire, Fatherland, où l'Allemagne a gagné la guerre. J'y jouais le chef de la police. Et on était sur les lieux mêmes où le chef de la police communiste a travaillé. Donc j'ai vécu de grands moments avec HBO.
Quand on regarde de près le planning de tournage, le call, c'est-à-dire l'heure de début de tournage où tout le monde doit être prêt sur place, est fixée à 7h30 du matin. Cosmo et Vaughan, par exemple, ont été récupérés à leur hôtel de Belfast, le Premier Inn, à 6h10. Leur arrivée est prévue pour 6h50. Et Cosmo, lui, il est au maquillage de 7h20 à 7h40. Donc, 10 minutes trop tard en fonction de l'heure fixée. Sauf que il doit être sur le set, on set, c'est-à-dire prêt à tourner à 8h. La demi-heure qui précède, oui, ça demande un peu une explication, c'est un peu compliqué tout ça. La demi-heure qui précède sert à mettre en place l'éclairage, les caméras, tout ce qui est spécifique à la scène, pendant que les comédiens enfilent leurs costumes. Pour d'autres membres de l'équipe, le minibus part des studios à 5h55. Puis, il y en a un second qui part à 6h25. Figure aussi les heures de déjeuner sur place, mais pas l'heure de retour. Parce que la journée sera terminée, et bien quand tout sera terminé, quand les scènes seront mises en boîte. Il n'y a pas le choix. Kit Harington, qui tient le rôle clé de Jon Snow, nous rejoint dans une des pièces du Château Noir. Il est entre deux prises, donc on a très très peu de temps avec lui, et il nous fait part de son ignorance dans le domaine de la fantasy.
Je ne suis pas un très grand fan de fantasy. Mon livre favori dans ce domaine reste Le Sorcier de Terre et Mer, de Ursula Le Guin. J'adore ce livre, et je l'ai lu plusieurs fois. J'ai lu Harry Potter quand j'étais plus jeune aussi. Mais je n'avais pas entendu parler du Trône de Fer. Et je l'ai lu au fur et à mesure que les auditions se déroulaient. Et j'étais totalement accroché. J'ai adoré.
Il y a une énorme distribution, ça se passe bien avec tous les acteurs.
Beaucoup sont des gens que je suis depuis longtemps. James Cosmo, Peter Vaughan, Sean, Mark Addy, ce sont des gens que j'ai vus à la télé et au théâtre. C'est donc un rêve d'être là. De jouer une scène aux côtés de Peter Vaughan, c'est juste énorme. Mais oui, c'est énorme et je ne suis pas sûr d'avoir rencontré tout le monde. Beaucoup de scènes se déroulent à King's Landing ou au-delà des mers, donc peut-être que je ne les rencontrerai jamais.
Votre rôle est absolument crucial. Comment vous gérez ça?
Je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis absolument terrifié. Je n'ai fait que du théâtre. Je suis sorti il y a 2 ans à peine de l'école d'art dramatique. Et j'ai fait 2 pièces. Sur scène, vous pouvez capter les réactions du public. Vous pouvez changer les choses. À chaque nouvelle représentation, ça évolue. Mais filmer, c'est différent pour moi. Vous faites la scène et vous ne pouvez rien y changer. Toutes mes scènes jusqu'à présent, je me suis dit en rentrant chez moi, « Merde, j'aurais dû faire ceci ou cela. » Ou « Je n'aurais pas dû faire ceci ou cela. » Vous devez vous fier à votre première impression. Mais sinon, oui, c'est un rôle formidable. Et j'essaie de ne pas trop penser à la suite.
Ah, qui t'est rappelé sur le tournage? Le tournage va reprendre, c'est la suite de la scène précédente. Maître Aemon explique à John quelle sera sa tâche. La scène s'achève, on va donc pouvoir, vous et moi, mieux regarder le mur, de plus près. L'équipe des effets spéciaux a traité la surface de la pierre, la vraie pierre, parce que je vous rappelle qu'on est quand même à flanc de montagne, pour lui donner une apparence blanchâtre et neigeuse. Tom Martin, le responsable de la construction des décors, va nous expliquer qu'il a fait monter un authentique monte-charge, tel qu'on en voit sur les immeubles en construction. Au bout de quelques dizaines de mètres, ce sont des images de synthèse qui prennent la relève et complètent l'image pour les plans très très larges. Mais l'avantage d'avoir construit sur place la paroi et le monte-charge en vrai, c'est de pouvoir tourner comme on le souhaite, sans avoir en tête les frais d'images de synthèse, les axes, etc. et surtout le temps que ça pourrait nécessiter par la suite. Au final, c'est donc bien plus pratique, bien plus artistique et bien plus économique de tourner autant de scènes en dur plutôt que sur fond vert. Du balcon où nous sommes, nous le voyons. C'est le créateur de cet univers. Entrant dans le Château Noir par la grande porte, il y a de quoi, et contemplant le mur et le monte-charge donc qui amène jusqu'à son sommet, voilà George R.R. Martin. Il est là, casquette vissée sur la tête, le regard pétillant de celui qui voit enfin ses écrits prendre forme. Il nous rejoint pour nous saluer. Quelle a été votre réaction en découvrant les décors avant le tournage du pilote? Qu'est-ce que ça fait de voir son travail devenir réalité?
C'était extraordinaire. J'écris des romans depuis 1991. Le premier a été publié aux États-Unis en 1996. Ça fait bien des années que je vis dans le monde de Westeros. J'ai donc une idée très nette de ce à quoi il ressemble. Donc il y a toujours une double réaction. Je me dis toujours, tiens, ce n'est pas tout à fait comme ça que je l'imaginais. Je voyais ça autrement. Et tout de suite après, mais ce qu'ils ont fait est vraiment génial. Ils ont parfois eu une vision un peu différente de ce que j'avais écrit, mais le département artistique, les créateurs de décors, Gemma Jackson, la production designer de la série, et tous ceux qui sont impliqués dans cet aspect de la série, ont vraiment fait un travail remarquable. Ils ont su donner vie à Westeros, que ce soit à travers les décors en studio ou des décors naturels. Tout ce que j'ai pu voir m'a coupé le souffle.
Vous avez un exemple ? Qu'est-ce qui n'était pas exactement comme vous l'aviez imaginé ?
Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez pu voir ce décor, la grande salle du siège de la famille Arryn. En début de semaine, on y a tourné pendant 2 jours. Dans les romans, elle est rectangulaire. Mais ils ont construit une salle ronde, avec beaucoup de lignes courbes. Le résultat est tout à fait spectaculaire, mais ça n'a rien à voir avec la longue salle étroite et rectangulaire que j'ai décrite dans les livres. La porte de la lune est aussi différente, mais je trouve qu'ils l'ont rendue bien plus intéressante. J'avais imaginé une simple porte qui s'ouvrait sur le vide et par laquelle on balançait les gens qui se tuaient quelques centaines de mètres plus bas. Là, ils en ont fait une sorte de puits dans le sol, au centre de la pièce qu'on ouvre avec un système de levier. Elle est vraiment très cool. Donc ce n'est pas du tout ce que j'avais écrit, mais ça me va très bien. J'en suis même ravi. Tant que visuellement c'est percutant, c'est le principal. Ma série de romans dure depuis assez longtemps. J'ai donc pu voir pas mal d'interprétations artistiques des divers châteaux, des armures, des personnages. Beaucoup de dessinateurs les ont représentés. Que ce soit pour le jeu de rôle, le jeu de cartes ou simplement les couvertures. Sans parler des couvertures, dans chaque pays publiant une traduction. Il y a aussi des maquettes. Chaque artiste veut mettre en avant son interprétation des choses. Et je trouve ça fantastique. J'adore voir comment chacun se représente tout ça.
Vous savez comment votre propre récit va se terminer ?
Oui, je connais la fin, les grandes lignes en tout cas.
Ah, ça va rassurer les équipes de HBO, ça. Vous promettez que vous arriverez à conclure votre histoire ?
Oui, si HBO va jusqu'au bout, il y aura bien une fin. J'aime comparer ça à un voyage, comme si je décidais de traverser les États-Unis. Je pars de New York pour me rendre à Los Angeles. Connaissant ma destination, je vais consulter des cartes, des atlas routiers et déterminer que je prendrai telle route qui me mènera jusqu'à Chicago. Ensuite, je partirai vers le sud, je traverserai le Missouri et je ferai un crochet par Kansas City. Ensuite, j'irai au Nouveau-Mexique pour visiter le Grand Canyon avant de finir par gagner Los Angeles. Je connais l'itinéraire, je connais le point d'arrivée et les principales étapes. Ce que je ne connais pas, ce sont toutes ces choses intéressantes qui vont jalonner mon chemin. Est-ce que dès le premier jour, je vais faire un détour ? Est-ce qu'un de mes pneus va crever ? Est-ce que je vais prendre quelqu'un en stop ? Est-ce que je vais m'arrêter dans un petit resto et manger la meilleure tarte de ma vie ? Ou faire une intoxication alimentaire ? Je n'en sais rien. Toutes ces aventures qui vont survenir à mesure que j'avancerai, on ne peut pas les prévoir. C'est un peu la même chose pour l'écriture. Il y a des choses que je découvre au fur et à mesure et que j'écris, que je n'avais pas forcément prévues, mais qui sont passionnantes. Pour moi, ce sont tous ces détails qui font la beauté du voyage.
Vous êtes très impliqué dans la production. Vous avez même écrit le scénario d'un des épisodes de cette première saison. C'est pas trop compliqué d'écrire un script pour un épisode lui-même basé sur votre roman ?
J'ai écrit un épisode, oui. Je vais écrire un épisode par saison. Pour être honnête, une partie de moi voudrait pouvoir écrire 2, 3, 4 épisodes par saison. Surtout quand je vois ces décors. Mais pour cette saison de 10 épisodes, Brian Cogman en a écrit 1. Jen Espenson, 1. Moi aussi, et Dan et Dave se sont chargés des 7 autres. C'est comme ça que ça s'est réparti, et ça fonctionne très bien. Mais comme je vous le disais, une partie de moi voudrait être encore plus impliquée au quotidien. Mais je ne peux pas. Je dois finir le cinquième tome, ensuite je devrais écrire le sixième et le septième roman. Je dois surtout éviter que la série ne rattrape les romans. D'accord, pour le moment, j'ai 4 bouquins d'avance sur eux, mais je dois bien veiller à conserver cette avance.
Allez, c'est terminé, là, plus le temps. Hein. Le minivan va repartir, on laisse toute l'équipe reprendre le tournage, et nous, on rentre se réchauffer. Après le Nord, notre deuxième jour de tournage, le vendredi 29 octobre, se déroule dans la région du Sud. Bon, en fait, dans les studios de Pent Hall, à Belfast. On part à la même heure le matin, on emmène nos bagages avec nous parce que cet après-midi, ce sera direct pour l'aéroport. Mais le studio, ce coup-ci, est juste à côté de l'hôtel, pas très loin de l'aéroport. C'est sans doute parce qu'il s'agit des studios les plus hauts d'Europe, là où, initialement, des vaisseaux de croisière comme le Titanic ont été peints, d'où son nom, Pent Hall, que la salle principale a été érigée. C'est là que l'on voit le fameux trône de fer, l'objet de toutes les convoitises. Le vrai, l'authentique, pas celui qui est dans des conventions, hein, le vrai. On va tous se faire photographier dessus, hein, mais c'est Anna qui prend et qui garde les photos. Elle nous les enverra un peu plus tard, nous a-t-elle dit. La salle a, elle, la forme d'une véritable cathédrale, avec ses vitraux gigantesques et une ambiance extrêmement solennelle. Alors, vous n'êtes sans doute pas très habitué, mais moi je peux vous le dire. Généralement, les studios sont bien plus petits qu'à l'écran. Les objectifs des caméras agrandissent un peu des studios qui sont, quand on les voit, un peu rikiki, quoi. Là, c'est l'inverse. C'est à perte de vue. Si HBO voulait nous montrer la puissance qu'il met dans sa nouvelle série, c'est franchement gagné. Entre le Château Noir d'hier et la salle du trône, là, c'est complet. Et c'est pas fini. On fait quelques pas. Et voici la salle des aérines, mentionnée la veille par George R.R. Martin. Elle est là aussi circulaire, telle une arène, cernée par deux grands escaliers dignes d'un épisode de Dynastie. Hein. C'est en pénétrant dans les appartements royaux, le donjon rouge, que nous retrouvons Martin, qui scrute sur un écran de contrôle, un combo, la scène actuellement en tournage. Il s'agit du roi Robert, interprété par Mark Addy, méconnaissable sous sa barbe de souverain, qui se remémore ses faits d'armes avec Baristan Slemy dans une ambiance que l'on croirait sortie d'un téléfilm historique de France Télévisions. Pas obligatoirement très gentil, ça, hein, mais bon, mais c'est la vérité. C'est une scène de l'épisode 5 qui se tourne ce jour-là dans ce décor. Et plus tard, dans l'après-midi, dans le même décor du Red Keep, seront tournées d'autres scènes de l'épisode 4. Brian Kirk, le réalisateur de cet épisode, qui a déjà travaillé sur une autre série d'HBO, Boardwalk Empire, discute un peu pendant qu'on met en place le plan suivant.
Je n'ai pas vu réellement d'autres séries télé avec une telle ampleur. Franchement, quand ce sera diffusé, ce sera encore plus fort que Boardwalk Empire. Ce sera émotionnellement énorme et physiquement immense. Je ne vois rien de comparable à la télévision. Il n'y a pas d'autre chaîne où l'on peut faire une série de ce niveau.
Mark Addy, qui tient le rôle du roi Robert, donc, est en pleine forme. Il hurle, il vocifère de prise en prise. Il est très volubile. Hein. Pourtant, il est arrivé au studio, lui, à 5h35 ce matin. Le planning réclamait qu'il soit prêt à tourner à 7h30. Et il a un peu moins d'une heure de maquillage. Quand il passe nous voir, on sent quand même le mec un petit peu fatigué, quoi.
Être roi n'était pas le travail que mon personnage s'imaginait faire un jour. Il serait plutôt un chef des rebelles. Et c'est pas tout à fait ça. Il a été inactif pendant plusieurs années et ça l'a rendu gros, alcoolique et feignant. Il est cerné par ses ennemis jusque dans sa propre famille, qui est avide de pouvoir. Il a donc besoin de Ned Stark pour le rejoindre et veiller sur ses arrières.
Il va donc vivre de grands changements entre le début et la fin de la saison ?
C'est une question très spoiler. Il faut répondre en tournant autour. Oui, oui, il va attraper très froid à la fin de la saison.
Bon, on se regarde en silence, alors que de nouvelles scènes sont tournées. Vous et moi, on n'est pas très convaincus. Ce que l'on voit fait quand même un peu penser à du théâtre filmé, tant les comédiens sont là et déclament leurs textes avec beaucoup d'emphase. Aller sur un tournage vous permet de sentir la production, mais en aucun cas de déterminer si le résultat final sera à la hauteur des moyens engagés. Si on vous en met plein la vue, avec des décors gigantesques construits pour de vrai, avec un armurier spécialisé pour recréer les épées, si spécifiques qui sont dans les romans, avec un gigantesque département costume et une armée de techniciens, ben cela ne dicte en rien que la série, ensuite, sera réussie. Et ça, c'est vrai pour absolument tous les tournages. Voilà, on va monter dans le taxi qui va nous emmener directement des studios à l'aéroport. Notre vol est à 18h30 pour une arrivée à Paris à 22h25. Bon, en fait, comme l'avion va être retardé, on va devoir rester à Londres aux frais de la compagnie Air France et repartir le lendemain matin à l'aube. Mais bon, une fois que tout ça est fait, notre reportage est complet. Il sortira dans le magazine Mad Movies, dans le numéro 240, il y aura même une accroche en couverture. La série n'aura même pas encore démarré, mais bon, on a quand même espoir que ça marchotte, quoi, que ça fonctionne bien, quoi. Parce que ça, je vous ai pas dit, mais le jeudi soir, dans un pub, non loin de notre hôtel, vous et moi, avec une partie de l'équipe, on était réunis avec des bières, avec de la musique et tout ça. Et Jean-Gérard Martin était là et nous disait « Ah, là, il y a une cinquantaine de personnes, hein, c'est déjà plein ». Mais quand la série sera diffusée, on pourra plus se réunir en petit comité comme ça. Avec la diffusion sur HBO, il y aura un autre public qui arrivera. Non, Georges, t'es sûr? Tu crois vraiment? Il était réellement en dessous de la vérité, Georges R.R. Martin. S'il avait su... La semaine prochaine, de retour de Cannes Série, je vous raconterai la saga Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Et pour une belle raison, c'est que Dame Diana Rigg, qui a incarné l'extraordinaire Miss Peel et qui a tenu un rôle important dans Game of Thrones, justement, y est invitée exceptionnelle. Ça valait bien une émission, non? Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.